Vous écoutez
RMC.
Alle 21:30 di ieri è stato ritrovato a Rimini nell'hotel Residence il cadavere di Marco Pantani. Il decesso risalirebbe alle ore 17.
Et on revient 21 ans en arrière, Christophe, pour revivre avec toi le triste épilogue d'un certain Marco Pantani.
Ce 14 février 2004, à l'heure où Lance Armstrong prépare chez lui au Texas son sixième succès sur le Tour de France, au moment où Richard Virenque lui rêve éternellement de maillot à pois en Italie, sur la côte adriatique, leur plus grand rival quitte à jamais le peloton.
Madame, monsieur, bonsoir. Marco Pantani est mort seul hier soir dans une chambre d'hôtel de Rimini à quelques kilomètres du village où il était né. Il s'était isolé dans cet hôtel depuis 4 jours. Le coureur de 34 ans gisait à même le sol près de son lit. Une boîte noxiolytique a été retrouvée dans sa chambre. Le procureur de la République, dans une courte déclaration, a exclu le suicide. Mais on attend évidemment le résultat de l'autopsie.
Une annonce qui plonge aussitôt tout le pays dans la tristesse et l'incrédulité. Les Italiens qui l'idolâtraient ont du mal à comprendre comment leur champion ait pu chuter de la sorte aussi rapidement. Sur son décès, toutes les hypothèses seront évoquées, suicide, overdose ou même meurtre, supputation restée jusque-là sans réponse véritable. Il n'empêche, au moment de son décès, Pantani n'était plus que l'ombre de l'immense grimpeur qui, durant une décennie, enflamma les commentateurs du monde entier.
Attacco Pantani.
Le pedalate di Pantani da solo al comando sul Mortirolo. Straordinario, veramente straordinario.
Pantani s'envole vers un succès italien sans doute ici à l'Alpe d'Huez. Formidable Pantani.
Dès que la route se cabrait, le petit Italien au crâne chauve et aux oreilles décollées ne pouvait s'empêcher de se dresser sur ses pédales et de mettre à mal la concurrence. De formidables qualités de grimpeur qui le conduisent au plus grand succès, d'étapes tout d'abord comme celle de l'Alpe d'Huez ou du Mortirolo. Mais en 98, il change de braquet. Cette fois-ci, ce sont les maillots qu'il vise, le rose du Giro puis le jaune du Tour de France, dont ils se partent tous les deux en l'espace d'un été.
Pantani qui s'envole ici, qui sait qu'après sa victoire dans le Tour d'Italie, il peut remporter le Tour de France, ce qui est historique, ce qui est rare. Quelques 4-5 coureurs au maximum dans l'histoire du cyclisme ont réussi cette performance.
Un Tour 98 entré dans les annales pour la victoire de Pantani, mais surtout pour la tristement célèbre affaire Festina qui va jeter pour plusieurs décennies l'opprobre et l'ombre du dopage sur le peloton. Et Pantani n'y échappera pas. En 99, à 2 jours de l'arrivée du Giro, alors qu'il en est le leader, il est mis hors course pour un taux d'hématocrite suspect. Le pirate est sous le choc.
Je suis revenu après 2 gros accidents, mais cette fois-ci, moralement, je touche le fond. Pour l'instant, je voudrais seulement un peu de respect et je salue les tifosi.
Un saluto ai tifosi.
Mais le pirate a de l'orgueil et encore des jambes l'année suivante à lui permettre de jouer d'égal à égal dans le Ventoux avec Lance Armstrong.
Victoire de Marco Pantani devant Lance Armstrong. Le Tour pour Armstrong, l'étape du Ventoux pour Pantani.
Un succès amer pour Pantani qui a bien remarqué qu'Armstrong lui laissait l'aumône de la victoire en ne bataillant pas jusqu'au bout. Ce Tour, Pantani l'abandonne quelques jours plus tard, il n'en reverra plus jamais les routes. En 2001, échaudé par les nombreux soupçons, les organisateurs décident de ne pas l'inviter. Dans le même temps, il est exclu du Giro après qu'une seringue d'insuline ait été retrouvée dans sa chambre. Cette fois-ci, le champion touche vraiment le fond. Il sombre dans la dépression et les addictions. Une longue descente aux enfers débute. Elle le conduira vers Rimini.
Pour cette histoire et pour ce retour dans le temps.
La chanson des Vampas consacrée à la disparition.
Énorme
fan de vélo.
Exactement. Et si vous voulez en savoir plus encore sur Marco Pantani, je vous conseille et je vous recommande le podcast Panthéon sur Marco Pantani qui vient de sortir. Il est tout chaud et c'est à retrouver sur l'appli RMC, sur toutes les plateformes de podcast. Il y a Richard Virenque, Luc Leblanc, Patrick Chêne qu'on a entendu.
Et surtout Philippe Brunel qui est le maître en matière de Pantani. Qui connaît tout, qui a écrit, qui a enquêté sur sa mort et qui sait tout de Marco.
Voilà, à écouter Nicolas Jamin prête sa voix et à la production Maxime Abolin donc sur toutes les applis. Et oui, parce que Marco Pantani, il a marqué les esprits, tu l'as dit, il a un style inimitable. Est-ce que vous comprenez, les GG, que Pantani a toujours cette aura malgré les affaires de dopage. Oui ou non, David Douillet?
Non.
Pascal Duprat?
Oui.
Christophe Cessieux?
Oui.
Jérôme Pinault?
Je vais en surprendre plus d'un, mais oui.
Alors David, on va commencer par toi, puisque tu dis non, toi. Tu ne comprends pas cette aura autour de Pantani?
Ben non, parce que c'est une aura qui est malsaine, qui est empreint de suspicion de dopage, voire de dopage avéré, et qui, quelque part, c'est un vol. Quelqu'un qui a des performances avec, on en a parlé tout à l'heure, grâce à des produits, c'est un voleur au regard de d'autres qui ne le font pas. Donc il a volé des succès à d'autres, il a volé des victoires à d'autres, il a volé une carrière à d'autres, et donc il a été mis en lumière. On en a fait un espèce de monument, parce que il a une mort tragique, malheureusement. Pour moi, c'est une victime d'un système, ce garçon. Mais son aura a été construite sur quelque chose qui est faux et qui est malsain et qui l'a conduit à la mort. Donc c'est alors que son aura serve à quelque chose pour mettre en garde tous ces gamins, tous ces jeunes qui pourraient rêver à travers des carrières comme celle de Marco Pantani, qui gratte un peu plus pour se rendre compte que les victoires ne sont méritées que lorsqu'elles sont propres et saines, et pas de cette manière-là. C'est la très mauvaise voie, voilà, c'est ce que je pense.
Ça doit pas être un exemple, on l'a bien compris, et c'est vrai que bon, peut-être que certains sont gênés qu'on reparle à chaque fois de Marco Pantani.
Alors je sais pas s'il a volé à beaucoup de monde à l'époque, parce que ouais, 98, que 99. Alors Jérôme pourrait nous le dire
exactement
plus précisément.
Ce que j'allais
mais c'était jeune.
Mais il a volé à tous ceux 80, qui ne dopaient pas. Et c'était pas le seul voleur.
Il n'y en avait pas beaucoup.
Et c'est pas ce voleur.
Il n'y en avait pas beaucoup.
Il y en avait pas beaucoup,
mais
à l'époque.
Mais il devait y en avoir quand même dans l'eau. Excusez-moi,
oui,
mais
oui,
j'ai quand
même. Oui,
enfin, j'aime le vélo et oui. J'ai l'illusion de croire que tout le peloton n'était pas dopé.
Mais en fait,
et que tous ceux qui étaient dopés,
David,
volaient tous les autres.
Mais voilà. On est tous d'accord avec toi, David, sur ce que tu dis. Bien sûr, on n'encourage pas le dopage sous prétexte qu'on comprenne l'aura qu'a Pantani. Moi, je le comprends, je vais te dire pourquoi. Parce que quand on a fait ce sujet, je me suis remémoré et je suis allé retourner sur Wikipédia pour essayer de me rappeler. J'étais dans le col de Jouplane en 97. L'étape, c'était Courchevel-Morzine. Donc, ils arrivaient pas loin de chez moi. Et dans le dernier col, dans Jouplane, il a envoyé une mine. Okay. Il a envoyé une mine et il a mis une 17 à tout le monde. Et Dieu sait s'il y en avait des super coureurs, Virenque et compagnie. Donc, j'ai l'image de ce chauve. Il avait pas le bandeau encore. Il était fascinant sur le vélo. Il avait une aisance en montagne incroyable. Christophe, tu peux. Mais allez, je pense que même sans ce prix-là, il avait l'aisance quand même. Voilà, je pense que s'il n'avait pas été dopé, je pense qu'il aurait été un excellent grimpeur.
Je ne crois pas parce que du jour où il y a eu des suspicions de dopage, où son taux d'hémotocrite était tout à fait anormal, ça a été la descente aux enfers, et la descente aux enfers sportive. Donc ça veut bien dire que c'était le produit qui le tenait.
Je comprends ce que tu dis, mais tout simplement, c'est mon point de vue, et il est respectable en cela. Je suis contre le dopage, bien entendu, comme tous les sportifs qui l'ont été. Mais je peux dire que j'ai plus d'affection pour Pantani que j'en ai pour Armstrong.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
C'est tout.
Nous, on peut être un peu surpris, et ceux qui nous écoutent, évidemment, de t'entendre dire que tu comprends cette aura alors qu'il a été dopé.
Je comprends cette aura, je vais même aller plus loin. Je suis peu fan dans ma vie, à part d'un mec peut-être ou deux sur le vélo, et c'était pas Jalabert, et c'était pas Virenque, c'était Marco Pantani. Pourquoi? Parce que c'est le campionissimo par excellence. Et si il y a bien une chose que je ne souhaite pas et que je ne supporte pas, c'est que l'on compare Armstrong à Pantani. Pourquoi? Parce que Pantani a dominé et gagné des courses dans une époque où c'était la même chose pour tout le monde. Tout le monde était dopé, ou quasiment tout le monde.
Non, je suis pas sûr.
Bien sûr que si. Ces grands-là, oui. Et j'ai même moi dit souvent.
Ces grands-là, oui, mais pas les autres.
Ouais, mais les autres, il n'y en avait pas beaucoup. Pour
si,
avoir.
Mais je me souviens.
Excuse-moi, j'ai fait un peu plus de vélo que toi et j'ai un peu plus parlé à des garçons qui étaient dans ce peloton à cette époque-là. Je peux te dire que même les mecs qui ne voulaient pas se doper n'avaient pas le choix d'y passer. J'ai mon frère Sébastien qui n'a pas pu faire carrière parce que arriver chez les pros en 98, c'est soit tu acceptes de te doper, soit tu ne passes pas pro. C'était comme ça.
Il y avait un peloton à deux. Il y avait deux pelotons.
Non, mais il y avait un tout petit peloton qui était à.
En tout cas, ceux qui avaient les capacités. Ceux qui avaient les capacités de dominer les grands tours, David, étaient comme Marco Pantani. C'est-à-dire, dans ce système-là, où c'était quelqu'un qui était à part, c'est son histoire, sa famille, ses premiers tours de roue, sa mère, la maman, qui est toujours là avec lui, qui est son agente, qui est son impresario, qui le suit partout. Il a été victime de graves accidents en course. Il revient et il domine. Il a dominé dans une époque où le spectre de dopage était présent. On ne peut pas.
S'il n'y a pas de dopage, il n'y a pas d'aura. C'est ça que je veux vous faire comprendre.
C'est un autre.
L'aura dont on parle n'existerait pas s'il s'était pas dopé.
Il n'y a pas que les victoires, en fait.
Et la légende Marco Pantani, elle naît aussi de l'histoire qu'il y a derrière ce dernier contrôle antidopage à Madonna di Campiglio. Là où il se fait définitivement prendre, l'Italie. Se met du côté du pirate parce qu'elle pense que comme c'est un petit d'une petite région, elle prend sur elle et la défense de Pantani parce que c'est le petit qui se fait abattre par la région du Nord, par la Lombardie. Voilà pourquoi l'Italie se saisit de cet amour pour ce coureur, même quand bien même il a triché. Il faut savoir aussi qu'en Italie, la culture cycliste n'est pas du tout la même que nous. Pas du tout la même. Il y a des coureurs qui ont triché et qui sont aujourd'hui directeurs d'épreuve, qui sont aujourd'hui en pleine lumière.
En France aussi. Hein.
En France aussi. Ils ont du mal à l'avouer, certains. Mais c'est normal ou pas normal. Après, l'aura qu'il a, c'est parce que c'est l'un des grands de ce
le
monde.
Look aussi.
Je le compare pas plus, pas moins qu'à Frank Vandenbroucke en Belgique. Ouais. Frank Vandenbroucke en Belgique est un héros parce qu'il est parti. Parce qu'il est parti avec tout ça. Et Philippe Brunel le raconte, mais formidablement, il est parti avec le mystère de sa mort. On ne sait toujours pas comment Marco Pantani, ce grand champion qui a gagné le Tour de France et le Tour d'Italie, on ne lui a pas enlevé à lui, comment il est pareil, on ne le sait pas.
Est-ce que
et
tu
on
te rends compte de ce que tu es en train de dire?
On ne peut pas comparer à Armstrong.
Tu es en train de dire.
Ouais.
Non, mais c'est terrible parce que tu es en train de dire que le mec, il a son histoire, c'est un petit, il s'est dopé, oui, mais on le pardonne et il en meurt parce que, excuse-moi.
Non, il est pas mort. Il est mort d'une addiction
qui probablement est due. Non, je suis désolé, là, vous n'allez pas me raconter la messe. Cette addiction, elle est née de quelque chose et elle est du dopage. Voilà, c'est toujours pareil. Le dopage dans sa forme provoque, et on le sait, des addictions massives derrière. Et je suis désolé, ce garçon, s'il ne s'était pas dopé, ne serait peut-être pas mort aujourd'hui. Il serait pas connu.
Armstrong, il a l'air
il serait pas connu, bah, peut-être, bien, mais en tout cas, lui, il est tombé dans une addiction telle que.
Non, mais tu fais des raccourcis, David.
Oui, je fais des raccourcis.
C'est pas parce que t'as été dopé que tu que ça tous les dopés finissent pas avec des overdoses et des aiguilles dans le bras ou
mais écoute-moi sa dépression vous êtes en dehors de la vérité. Sa dépression est due à cette dégringolade. Or s'il y a eu dégringolade, c'est qu'il était il a été monté très haut artificiellement. S'il n'était pas monté très haut, il n'y aurait jamais eu de dégringolade, il n'y aurait jamais eu d'addiction.
Sa dépression elle est due par sa conviction d'avoir payé pour l'ensemble du cyclisme italien.
Alors mais c'est pareil. Tu es donc d'accord avec moi.
Vincent est avec nous au 32-16 dans les grandes gueules du sport pour parler de Marco Pantani. Salut Vincent.
Bonjour les grandes gueules du sport.
Merci d'être avec nous.
Bonjour Vincent.
Tu te places dans quel camp est-ce que toi, tu comprends cette aura de Marco Pantani encore aujourd'hui, 21 ans après sa mort?
Il a un aura parce que déjà c'était un écorché vif. Voilà, il y avait une histoire derrière. Il y avait quelque chose. Et en plus, il n'était pas méprisant dans la victoire. Comme a pu l'être Armstrong, et je pense que certains le savent. Et il y a un côté sur lequel on s'attachait. C'était quelqu'un qui gagnait, mais qui restait discret. Alors oui, il a fait ce qu'il a fait, mais comme vous l'avez dit, il l'a fait dans une période où tout le monde se faisait. Comment on pouvait s'en sortir? Enfin, le vélo, S'il n'y avait pas eu l'omerta du vélo, et l'omerta, malheureusement, il continue dans notre sport, peut-être qu'on avancerait sur autre chose. Mais il y avait un côté respect, un côté respect. Oui, il l'a fait, mais il a une vie. Et moi, ce que j'aimais, c'est il gagnait. Oui, il dominait, il a fait des choses, mais après, ça retombait. Il y avait une certaine discrétion, comme si, des moments, je ne sais pas si vous avez senti ça, mais comme s'il avait honte d'avoir gagné, ou comme si, c'était quelqu'un avec une certaine humilité.
Il pouvait, ouais.
Mais aujourd'hui, par contre, si vous demandez qu'est-ce qu'a fait Armstrong, malgré qu'on lui a enlevé les Tours de France, les gens vous diront qu'il a gagné le Tour de France, malheureusement. Donc aujourd'hui, d'enlever ou de ne pas enlever, une fois que c'est gagné, c'était acquis dans la tête des gens.
Donc il faut
relativiser.
Alors,
dans ce cas-là, dans le vélo, on se remet. Le problème,
mais moi, c'est j'ai une pensée à tous ceux. J'écoute, j'ai une pensée pour tous ceux qui marchent à l'eau claire et qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, justement parce qu'ils marchent à l'eau claire. C'est ça qui me fait de la peine. Tu vois, on ne parle que de ceux qui gagnent et de ceux qui ont triché. Alors, c'est lamentable de tenir ce genre de discours. Voilà.
Alors juste, je vois ce qui se passe aussi sur ceux qui nous écoutent et sur l'appli RMC Direct Studio. Il y a beaucoup de gens qui disent merci David d'avoir ces mots-là. Continuez Monsieur Douillet. Il y en a qui sont un peu surpris.
Je vais reprendre ma voiture, je vais lire tout ça.
Tu défends un tricheur, certains parlent de tricheur.
Je défends pas un tricheur, je défends un personnage à part dans un monde où tout le monde était comme lui. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui dans la comparaison.
Sois honnête, mais c'est pas vrai ce que tu dis.
Bah, avant 98, si.
Tous ceux qui gagnaient, oui, peut-être, mais il y avait certainement au moins une personne qui n'était pas comme lui. Mmh. Tu peux pas dire que tout le. Ouais. Tous les participants. Donc tu dis que tous les participants au Tour de France étaient tous dopés.
C'était un système. C'est ça que tu dis. Ce qui nous expliquait
Gérard. En 98, non, mais malheureusement, David, en 98, 99% peut-être, ouais.
Mmh. Donc il reste 1%. Je parle de ces 1%. Okay. Là. Voilà.
Merci beaucoup,
qui
Vincent.
Pour moi, ont plus de valeur.
Merci Vincent d'être passé. Tu reviens quand tu veux dans les grandes gueules du sport. Et le débat continue sur les réseaux, sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC Direct Studio.